Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 27 janvier, bienvenue, merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble pour revivre les temps forts de l'actualité de ces 7 derniers jours, avec évidemment les reportages de la rédaction. Nous allons prendre la direction de la Turquie, de l'Espagne, du Libéria ou du Mali. Cette semaine, notre invité est Gilles Delannoy, spécialiste de sciences politiques, auteur aux presses universitaires de France, d'un essai qui s'intitule « La nation contre le nationalisme ». Une semaine d'actualité à écouter aussi sur votre application RFI Pure Radio et sur le site de la radio www.rfi.fr. Avant de retrouver notre invité, un mot sur une visite à France Média Monde, à RFI, de notre confrère Ahmed Abba, notre correspondant en langue Haoussa au Cameroun, libéré après plus de 2 ans de détention, détention pour avoir couvert la situation dans l'extrême nord du Cameroun, Clémentine Palotsky.
Vous avez cru à mon innocence. Les mots me manquent pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi.
Ces quelques mots de notre confrère Ahmed Abba, ému dans son costume traditionnel à Oussa face à ses collègues ou des personnalités venues célébrer sa libération. Certains le rencontraient pour la première fois. Plus ému encore, la présidente directrice générale du groupe France Média Monde, Marie-Christine Saragosse.
Ce qui m'a frappé, c'est d'abord ton courage, ta force de résistance, le fait que tu n'as jamais courbé les chines et tu as un peu toujours cru en nous. Donc je voudrais surtout, Ahmed, qu'on te dise tous bravo et qu'on t'applaudisse très fort.
Ahmed Abba a passé exactement 876 jours derrière les barreaux. Il avait été condamné à 10 ans de prison en première instance avant d'être relaxé du principal chef d'accusation de blanchiment de terrorisme. La seule charge retenue contre lui, celle de non-dénonciation, une accusation dont Ahmed Abba ne rougit pas, fier d'avoir su protéger ses sources, même sous la torture.
J'ai déjà sacrifié ma vie. On ne laisse pas les bras, on va continuer pour sauver et protéger notre métier.
Un courage déjà récompensé alors qu'il se trouvait encore en prison. Ahmed Abba a reçu le prix de la liberté de la presse internationale, un prix décerné par le comité de protection des journalistes.
Une semaine d'actualité.
Et merci de votre fidélité. Bonjour Gilles Delannoy.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes directeur de recherche au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Professeur à Sciences Po, vous-même, vous êtes spécialiste de la question du nationalisme, de la nation. Vous réfléchissez beaucoup à la question de la démocratie. Et j'ai voulu vous inviter pour mettre en relief votre réflexion au regard de l'actualité. Parce que, d'évidence, les mots « nation » nationalistes sont au cœur de l'actualité internationale.
On peut le dire, oui. Enfin, ils n'ont jamais totalement disparu, mais on peut dire que depuis quelques années, tout dépend du cycle qu'on observe, mais on peut au moins en observer deux, je dirais. Le cycle de la fin du communisme et de la réunification allemande a remis sinon le nationalisme, au moins la nation au premier plan. Et plus récemment, ce qu'on a appelé les élections populistes dans les démocraties. Et éventuellement aussi des sujets dont nous serons amenés à parler, qui sont les questions nationales à l'intérieur des États.
Alors la nation est un terme très très flou, on cherche toujours la définition exacte, vous en donnez une d'ailleurs dans le livre, Gilles Delannoy, et le nationalisme, le mot nationalisme, lui, a mauvaise presse.
Alors le mot nationalisme a particulièrement mauvaise presse en français. Dans d'autres langues, il a parfois un caractère un peu plus neutre. Mais il n'y a pas d'accord entre spécialistes sur la définition. C'est d'ailleurs pour ça que j'en propose une nouvelle, qui n'est pas entièrement en rupture avec les anciennes, mais qui essaie d'apporter quelque chose d'un peu nouveau et d'un peu général, et si possible de non polémique. Hein. Donc je propose une définition, comme je dis, qui peut convenir à tout le monde, aux nationalistes, aux indifférents, aux antinationalistes, aux post-nationalistes, aux cosmopolites. Je me range d'ailleurs plutôt dans la catégorie des observateurs cosmopolites.
Alors on reviendra sur cette définition, mais je vous propose tout de suite de partir pour l'Espagne, Gilles Delannoy, pour la Catalogne, à propos de la candidature de Carles Puigdemont à la tête du gouvernement catalan. Rappelons que l'ancien président catalan est installé à Bruxelles. Barcelone lundi, Laetitia Farine.
Après s'être entretenu avec les différents groupes parlementaires, le nouveau chef du Parlement, le séparatiste Roger Torrent, a estimé que Carles Puigdemont était l'unique candidat possible pour diriger la région.
Après avoir réfléchi à celui qui pourrait obtenir le plus de soutien, je proposerai à la Chambre des députés le député Carles Puigdemont comme candidat à la présidence de la région. Je suis conscient de sa situation personnelle et judiciaire, tout comme les menaces qui pèsent sur lui. Mais je sais aussi qu'il a une légitimité absolue pour être candidat.
Absoluta legitimitat per a ser candidat.
Poursuivi pour sédition, malversation et rébellion dans le cadre de la tentative de sécession du 27 octobre dernier, Carles Puigdemont risque jusqu'à 30 ans de prison. Il aimerait donc être investi à distance depuis la Belgique où il s'est exilé au mois d'octobre, mais le gouvernement espagnol et l'opposition ont déjà averti qu'il s'y opposerait. C'est ce qu'explique la porte-parole du Parti socialiste catalan, Eva Granados.
Nous allons demander au président du Parlement de revenir sur sa décision. C'est une mauvaise décision qui ne respecte pas les règles, car il propose un débat d'investiture avec un candidat qui a volontairement décidé de ne pas être présent et qui a demandé à déléguer son vote. Si le président du Parlement ne revient pas sur sa décision, nous déposerons un recours devant la Cour constitutionnelle, car nos droits auront été bafoués.
D'ici la fin du mois, un débat sur la candidature à distance de Carles Puigdemont devrait avoir lieu lors d'une séance d'investiture au Parlement.
Gilles Delannoy, pour vous, les Catalans sont des nationalistes ?
Oui, sans aucun doute, oui. Si on se réfère à la façon dont je comprends le phénomène, c'est-à-dire la volonté...
Je rappelle que vous l'étudiez depuis des années.
De superposer du politique et du culturel... Je pense que les Catalans sont des nationalistes. Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, d'être indépendantiste ou souverainiste pour être nationaliste. Dans le cadre, l'Espagne est un bon exemple. Hein, on pourrait le comparer à l'Écosse ou au Canada ou à la Belgique. Il y a des États qui sont, soumis à des tensions plurinationales. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la nation politique qui sert de structure à l'État, l'État-nation espagnole en l'occurrence, on peut imaginer qu'il peut y avoir des phénomènes d'existence nationale à plusieurs échelles.
Donc il peut y avoir des nationalistes à l'intérieur d'une nation.
Oui, et il peut y avoir plusieurs nationalismes qui se superposent aussi. Nationalisme dans les États qui ont des tensions plurinationales ou des histoires plurinationales. On peut avoir un nationalisme englobant, qui est celui de l'État existant, et puis des infranationalismes. Et historiquement, ça peut évidemment conduire à des situations extrêmement différentes, soit tout à fait apaisées, soit sécessionnistes, comme on l'a vu dans la sécession, par ailleurs pacifique, de la Tchécoslovaquie en deux États.
Ah, c'est intéressant, Gilles Delannoy, cette question catalane est intéressante parce que elle surgit en quelque sorte au moment où la globalisation bat son plein, si je puis dire. On pourrait aussi parler de ce qui se passe en Écosse aussi. Hein. Donc il y a des phénomènes à la fois d'ouverture et certains diraient de repli avec ces demandes d'indépendance côté catalan par exemple et aussi dans une autre mesure en Écosse.
Mais la globalisation économique, bon, qui reste d'ailleurs... inachevé, hein, pour le meilleur ou pour le pire, je n'entre pas dans ce débat, a des effets contradictoires, parce qu'en effet, elle affaiblit les États-nations, plutôt les États que les nations, d'ailleurs, de mon point de vue, mais ça peut aussi jouer, en effet, dans le sens de l'éclatement, parce que si l'État-nation auquel appartient une entité qui se sent minoritaire n'est plus le lieu des décisions primordiales, en effet, pourquoi pas la sécession dans ce cas-là. Donc, il y a deux tendances assez contradictoires, sans doute, pour le sujet qui nous occupe dans la globalisation. Ça peut amener à des fédérations de nations d'États-nations qui veulent peser assez lourd pour être un véritable acteur de la globalisation, mais ça peut aussi donner des idées dans ce climat de dérégulation, de baisse des impôts, ça peut donner des idées à des petites entités de jouer leur rôle personnel dans ce phénomène de globalisation. On nous vante beaucoup comme réussite de la globalisation des États cités comme Hong Kong et Singapour. voilà, de petites entités qui effectivement tirent bien leur épingle du jeu du point de vue de la globalisation.
Alors, hier, à Davos, Donald Trump a dit que pour lui, son programme America First n'était pas incompatible avec l'ouverture. C'est aussi votre avis. Est-ce que Donald Trump est lui aussi, à l'américaine, dirais-je, un nationaliste, selon vous, selon les critères qui sont les vôtres?
Oui, alors on est dans une situation assez différente aux États-Unis parce que le discours national y est. J'y suis quelquefois et je suis l'histoire des États-Unis de près. Oui. Il est beaucoup plus présent qu'en Europe. L'idéologie du post-national aux États-Unis, pour moi, n'existe pas, à part chez certains intellectuels, mais qui pèse quand même très peu. Donc il y a une version de la nation, sinon du nationalisme, qui est celle d'Obama, et puis il y a une version de Trump. Alors elles sont totalement opposées, mais il n'y a pas un discours important d'Obama dans lequel vous ne trouvez One Nation, we must act as one nation. Donc il y a pour moi plutôt deux conceptions de la nation qui s'opposent. C'est difficile de répondre à votre question parce que les États-Unis faisant partie des deux ou trois entités qui sont aussi des superpuissances, comment faire la différence entre ce qui tient à leur position de superpuissance et ce qui tient à leur existence en tant que nation. Donc il est évident que si on veut comprendre Trump, il faut analyser les deux sujets en même temps.
Sept jours dans le monde.
Gilles Delannoy, nous allons maintenant parler des Kurdes. Après l'opération lancée il y a une semaine à peu près, dans l'enclave kurde d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, opération turque, avec l'appui des djihadistes et l'accord tacite, semble-t-il, des États-Unis. En Turquie, le pouvoir appelle à la mobilisation générale. Correspondance d'Istanbul, Alexandre Billette.
Recep Tayyip Erdogan a menacé dimanche les opposants à l'opération dans le nord de la Syrie. « Si vous sortez dans la rue, vous allez en payer le prix », a-t-il dit. Les Turcs sont invités à accrocher le drapeau national à leurs fenêtres. Des prières sont récitées dans les mosquées pour soutenir les soldats. À quelques exceptions près, la presse turque publie des unes patriotiques et le parti d'opposition kémaliste, le CHP, soutient une opération qu'elle juge nécessaire. Difficile donc de s'opposer à cette offensive, c'est le cas pourtant du parti de la gauche pro-kurde, le HDP, qui est déjà dans le viseur des autorités et dont les dirigeants sont en prison pour terrorisme au profit du PKK. Recep Tayyip Erdogan a directement mentionné le parti lors de son discours. Dimanche, une conférence de presse du parti a été interrompue par les policiers à Diyarbakir et des manifestations ont été interdites à Istanbul et Ankara. Un mot d'ordre qui vaut aussi pour les réseaux sociaux. Lundi, 24 personnes ont été arrêtées pour propagande terroriste après avoir diffusé sur Internet des messages contre l'opération en Syrie.
La Turquie qui a aussi mené des raids au nord de l'Irak, dans le Kurdistan irakien. Alors face à l'attaque turque, les Kurdes de Syrie, cette fois contrés sur l'appui de l'armée syrienne. Correspondance signée Paul Khalife à Beyrouth.
Selon un haut responsable kurde cité par Al-Mayadin, les Kurdes accepteraient le déploiement de l'armée gouvernementale syrienne dans leur fief de Afrin. Ce dirigeant, dont le nom n'est pas précisé par la chaîne basée à Beyrouth, ne pose aucune condition à l'éventuelle entrée des troupes du régime à Afrin, à part le fait que les Kurdes soient associés au processus politique. Il se défend par ailleurs de toute velléité sécessionniste et assure que les Kurdes n'ont jamais reçu d'armes de la part des États-Unis. Les armes qui sont en notre possession appartiennent à l'État syrien et nous les lui restituerons le moment opportun, assure ce responsable. Il fait état d'un accord accepté par les Kurdes pour le déploiement de l'armée syrienne, conclu après des discussions avec le régime de Damas. Les autorités officielles syriennes n'ont pas réagi à ces informations, mais Damas a dénoncé avec virulence l'offensive turque, qualifiée d'agression brutale par le président Bachar el-Assad. Le ton conciliant à l'égard du gouvernement syrien constitue un véritable changement de discours chez les Kurdes. Reste à voir s'il sera suivi de mesures concrètes ou s'il s'agit uniquement d'un ballon d'essai.
Et sur ce sujet, je vous conseille d'écouter Géopolitique, le magazine de Marie-France Chatin, tout à l'heure, qui sera consacré au thème suivant, après Daesh, le chaos. À noter aussi dans l'actualité l'aide humanitaire saoudienne d'1,5 milliard pour le Yémen, alors que la coalition que dirige l'Arabie Saoudite continue ses frappes dans les zones sous contrôle houthiste et que l'ONU accuse Riyad d'utiliser l'arme de la famine comme une arme de guerre dans le pays. À noter aussi un attentat revendiqué par les talibans dans un grand hôtel de Kaboul le week-end dernier, 22 morts mort et la confirmation en appel de la condamnation de l'ex-président brésilien Lula pour corruption. Sa peine a même été alourdie à 12 ans et un mois de prison. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Gilles Delannoy, auteur d'un livre publié au PUF qui s'intitule « La nation contre le nationalisme ». Vous avez écouté la correspondance d'Alexandre Billette à Istanbul. La Turquie est une nation, visiblement. Vous savez, vous avez vu Erdogan.
La Turquie est un ancien empire qui est devenu une nation avec une réforme particulièrement profonde qui a même touché l'écriture et le langage. Et puis, une nouvelle relation à la religion apportée par Kemal et le kémalisme.
Et les habitants sont priés de sortir les drapeaux.
Oui. Alors, il y a évidemment un changement. On a assisté, au moins en partie récemment, avec la politique d'Erdogan à la fin du kémalisme, hein, d'une certaine manière. La résistance kémaliste semble quand même vaincue. Est-ce que c'est pour autant un simple changement de politique nationale, voire d'identité nationale que veut Erdogan et son parti? Est-ce que c'est aussi revenir à la nostalgie de l'Empire ottoman? On peut se poser la question.
Parce que vous citez Gilles Delannoy, Renan dans votre livre, je conseille d'ailleurs la lecture de votre livre, de ce chapitre en particulier. Renan a raison, c'était contre le modèle ottoman que la nation politique fut affirmée.
Oui, c'était la nation politique telle que la conçoit Renan. Elle se base à la fois sur l'échec de l'hypothèse impériale en Europe depuis l'Empire romain et sur le fait que les nations doivent élaborer chacune leur propre type de démocratie et puis que la différence des langues fait de toute façon qu'il n'y aura pas d'empire. Toutes les tentatives impériales sont des échecs. Cela dit, dans le cas de la Turquie, c'est le modèle opposé, qui était un modèle au fond de coexistence des cultures à l'intérieur d'un empire. Mais avec évidemment une hiérarchie assez sévère, hein. Il y avait quand même des minorités respectées, mais ayant un statut de minorité. Donc et surtout le fait qu'il y avait la persistance des minorités culturelles qui ne s'intégraient pas, puisque l'empire ne demande pas l'intégration. Il assure la coexistence pacifique des minorités, ce qui fait que par rapport aux pires expériences des nationalismes, on peut préférer avec de bonnes raisons le modèle impérial. Ma seule réserve, c'est qu'il n'y a jamais eu d'empire démocratique et que revenir au modèle impérial, si c'est au prix de l'abandon de la démocratie politique, c'est quand même un prix assez cher à payer.
Alors, au mot nation, on ajoute souvent le mot État et on utilise souvent cette expression État-nation. Les deux vont de pair.
Non, pas forcément. Avant la Révolution française et la Révolution américaine, il y avait quand même des nations, mais c'était en un sens principalement culturel. En inventant la nation politique, les révolutions modernes, principalement l'américaine et la française, ont à la fois compliqué la situation, mais on fait en sorte qu'il y ait une nouvelle entité ou une nouvelle forme politique qui puisse être substituée à l'empire, la cité n'étant plus vraiment très très puissante. Pour comprendre mon raisonnement, il faut penser que les monarchies qui existaient avant la Révolution restaient de petits empires, hein, qui n'essayaient pas d'intégrer leur population dans une seule culture et qui ne leur donnaient pas des droits politiques égaux. Donc la nation politique est née de ces révolutions égalitaires et libérales. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a miné de l'intérieur, souvent sans le vouloir, tous les empires qui existaient, hein, y compris l'Empire austro-hongrois, ouais. L'Empire russe, et pas seulement d'ailleurs en Orient, hein, l'Empire chinois.
Ouais. Gilles Delannoy, nous allons marquer une pause et on va revenir tout à l'heure sur votre définition de la nation. On va écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Retour maintenant à 7 jours d'actualité avec bien sûr les reportages de la rédaction et notre invité, le chercheur et professeur Gilles Delannoy, auteur d'un essai qui s'intitule « La nation contre le nationalisme », un livre publié au PUF. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique, évidemment, au Mali, en Centrafrique et au Libéria aujourd'hui. Mais pour le moment, attendons-nous en France.
Une semaine d'actualité.
Avec d'abord un retour d'Emmanuel Macron au château de Versailles à l'occasion d'une réunion de grands chefs d'entreprise de multinationales, réunion baptisée Choose France, tant pis pour la francophonie qu'on célébrera dans quelques semaines, Abla Jounaïdi.
Pour ce rendez-vous des grands patrons internationaux, l'Élysée n'a pas lésiné sur les moyens. Dans la journée, rencontre avec une quinzaine de ministres et le soir, sous les ors du château, un dîner avec Emmanuel Macron. Des symboles destinés à séduire encore et toujours les investisseurs, tout cela à huis clos. Plutôt, c'est devant la presse que Macron annonçait sur le site français de Toyota la promesse du constructeur d'y investir 400 millions d'euros et de créer 700 emplois directs. SAP, fournisseur allemand de logiciels, souhaite investir plus de 2 milliards d'euros sur 5 ans en faveur de l'innovation. Le groupe pharmaceutique suisse Novartis lui promet 900 millions d'euros pour la recherche clinique et son usine française. Alors que la France se veut championne en la matière, Google et Facebook ont annoncé chacun la création de leur centre de recherche en intelligence artificielle ainsi que des formations gratuites au numérique. Au gouvernement, on assure que tous ces investissements sont synonymes d'emplois futurs. Paris renforce aussi son arsenal juridique pour tirer les bénéfices du Brexit. Il améliore l'offre scolaire internationale, crée de nouvelles chambres commerciales pour juger les contrats en anglais et promet aux financiers exilés du Brexit qu'ils ne seront pas obligés de s'affilier au régime de retraite français pour s'installer à Paris.
Et le groupe Carrefour, quant à lui, a annoncé cette semaine la suppression de 2400 emplois. Le Bundestag et l'Assemblée ont célébré lundi le 55e anniversaire du traité de l'Élysée. C'était le 22 janvier 1963, il faut le rappeler. En adoptant une résolution commune en faveur d'un nouveau traité, devant les députés, le président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, a salué en français le nouvel élan que connaît la politique européenne. Dans un hémicycle pour le moins clairsemé, le responsable allemand a été applaudi debout sur quasiment tous les bancs, Anissa El-Jabri.
C'était la journée des symboles, décorum et solennité à Berlin et à Paris. Devant l'Assemblée nationale, Wolfgang Schäuble s'est exprimé en français dans le texte.
Nous voyons le nouvel élan que connaît la politique européenne. Nos parlements prennent aujourd'hui cet élan et ils impriment le rythme. Nous faisons en effet un grand pas en avant.
Applaudissements debout pour les 15 minutes d'allocution du président du Bundestag, mais aussi des voix discordantes, le député France Insoumise, Éric Coquerel.
Je dis au président Schäuble que pour ma part, je ne peux oublier le rôle particulièrement dur qu'il a tenu lors de l'odieux chantage au peuple grec martyrisé depuis 2015.
Sourire de l'ex-ministre allemand des Finances assis dans l'hémicycle quelques heures auparavant. Au Bundestag, Wolfgang Schäuble avait déjà assisté à un éclat, le refus du leader de l'extrême droite de commémorer le traité. Des deux côtés du Rhin, les adversaires de l'Europe, Macron-Merkel, se font entendre. Ceux-là n'ont pas signé la résolution commune des deux parlements, une résolution au final votée largement et un texte qui évoque des coopérations à renforcer un travail commun pour un nouveau traité de l'Élysée. Un geste symbolique et un message. L'Allemagne a beau être paralysée politiquement, Paris et Berlin ont toujours des projets.
Avant de vous retrouver, Gilles Delannoy, parlons des surveillants de prison. Ils ont poursuivi leur mouvement pour de nouvelles conditions de travail et pour davantage de sécurité afin de faire face aux détenus radicalisés notamment. Cette crise sociale qui dure, nous en sommes à 2 semaines de conflit aujourd'hui, devient peu à peu une crise politique, Marine de la Moissonnière.
Même si les députés de l'opposition ne sont pas tendres avec Nicole Belloubet, rares sont ceux qui réclament son départ.
C'est pas la démission de la garde des Sceaux qui réglera le problème.
Éric Ciotti, député Les Républicains.
Ce que je demande, ce sont des actes précis, concrets, pragmatiques, un calendrier, des moyens financiers et pas simplement la communication à laquelle nous habitue le président de la République.
Une analyse partagée par le député socialiste Olivier Faure.
Moi je ne veux pas me prononcer sur des questions qui sont purement politiciennes. Est-ce qu'il faut qu'elle démissionne ou pas ? Ce n'est pas la question. La question c'est la politique conduite. Et la politique conduite aujourd'hui en matière pénitentiaire n'est pas la bonne. Il y a aujourd'hui le retour de la croissance, c'est 22 milliards qui sont dans les caisses de l'État chaque année. En plus, ça peut quand même donner quelques marges.
Desserrer les cordons de la bourse, le gouvernement y est favorable, réplique-t-on dans le camp présidentiel. Le problème, ce sont les syndicats, selon Sacha Houlier, député La République En Marche.
La ministre de la Justice, je pense qu'elle a avancé des propositions qui lui permettent une sortie du conflit. La position des syndicats n'est pas unanime. Et ça, ça pose une question sur quelles sont les revendications qui sont portées.
Hier, l'Élysée a renouvelé son soutien à Nicole Belloubet, qui reste la principale interlocutrice des syndicats de gardiens de prison. L'Élysée qui a refusé de nommer un médiateur.
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes en compagnie de Gilles Delannoy. Nous venons de parler, d'évoquer quelques grands titres de l'actualité française. Au cœur de ces sujets, je pense notamment à l'Allemagne, il y a cette notion d'Europe, c'est la construction de l'Europe. Je pense notamment au traité de l'Élysée, à la réconciliation franco-allemande également. Une Europe qui est au cœur de votre raisonnement, Gilles Delannoy. Pour vous, il faut en revenir à une Europe, ou peut-être partir d'une Europe des nations. Redécouvrir en quelque sorte cette idée.
Oui, le point de départ, le diagnostic qui est aussi un pronostic, c'est que je ne suis pas particulièrement critique de ce qui a été fait pour fonder l'Europe telle qu'elle est, mais elle a aujourd'hui 60 ans, et les méthodes qui ont été employées ont donné le meilleur de ce qu'elle pouvait donner, et maintenant nous avons plutôt le pire. Donc c'est dans ce sens que, d'un point de vue qui est peut-être un peu critique sur l'état alarmant de l'Union européenne, je suis au contraire favorable à ce qu'on trouve un autre moyen de faire l'Union européenne. Je pense que l'argument qui est la démocratie serait un obstacle, après 60 ans, ne peut plus tenir. Et je pense que si on veut aller de l'avant, il faut faire une plus grande intégration européenne en reconnaissant les acteurs qui, à mon avis, sont les plus vivants, qui ne sont pas les bureaucraties étatiques ni les individus qui restent malgré tout dans leur langue nationale. Et c'est ce qu'il y a de plus vivant, ce sont les nations. Donc il faut les intégrer comme partenaires dans un système de type confédéral, pour ne pas dire fédéraliste.
Oui,
et non pas
fédération.
Voilà.
Oui.
Toutes les grandes confédérations qui ont réussi, que ce soit les États-Unis ou la Suisse, ne se sont jamais fait sur la négation de ce qui préexistait. On n'a jamais dit il faut absolument que le Pennsylvanie ou le canton de Berne disparaisse. Donc voilà, c'est mon idée, c'est qu'il faut à la fois tabler sur le passé démocratique et national de l'Union européenne pour la faire avancer. Et là aussi d'ailleurs, pour intégrer tout le monde, et pas seulement les Français et les Allemands, pas seulement les deux États les plus puissants.
Sauf que, Gilles Delannoy, il y a au sein de l'Union européenne aujourd'hui clairement la nation, les nations, qu'on pourrait transformer en fédération ou en confédération. Et il y a également le nationalisme. Et là, je pense à l'Europe dite de l'Est, je pense à la Pologne, à la République tchèque, par exemple.
Oui, bien sûr, mais rien n'est simple. Cela dit, rien ne prouve non plus que le nationalisme soit totalement incompatible avec le fait de rester dans l'Union européenne. Le cas britannique est quand même un cas tout à fait particulier. On oublie de rappeler que dans le référendum, il y avait certes dans le référendum du Brexit, il y avait évidemment les Leave qui ne voulaient plus être dans l'Union européenne, mais que proposait le Remain, c'est d'y être le moins possible. C'est quand même, ça n'oppose pas des anti et des pro-européens, ça oppose deux formes d'anti-européisme ou anti-Europe. Donc le cas britannique est particulier, et je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'il y ait une menace de ce type pour les autres composantes de l'Union européenne. Donc ce qu'il faut, au contraire, c'est trouver un moyen d'intégrer tout le monde, et de façon démocratique. Or, à mon avis, de façon démocratique, ça ne peut se faire qu'en y associant les démocraties nationales et en créant, mais pas contre ces démocraties nationales, une démocratie européenne. J'ai quelques idées sur le sujet.
Il faut lire votre livre, Gilles Delannoy. Il y a quelque chose qui vous énerve et qui est au cœur de votre analyse aussi, c'est une certaine manière d'interpréter le mot nationalisme. Vous connaissez bien sûr la phrase de François Mitterrand qui disait « le nationalisme, c'est la guerre ». Vous dites « c'est un peu plus compliqué que ça quand même ».
Le nationalisme peut créer beaucoup de situations conflictuelles, violentes, de guerre à l'intérieur des États ou entre les États. C'est indiscutable. Il faut quand même tempérer ce jugement en disant que c'est en général soit la politique de puissance, soit l'absence de démocratie, voire les deux à la fois, qui crée la guerre entre les États-nations et non pas uniquement le fait qu'il y ait une conscience nationale. puisqu'il y a aussi une loi tendancielle qui vient compenser la formule du président Mitterrand. Il n'y a pas eu de guerre entre États-nations démocratiques depuis que ceci existe. Les États-nations démocratiques se font parfois des mauvais coups sur le plan économique, mais ils ne se font pas la guerre. Donc, ouais. L'absence de démocratie, à mon avis, est un facteur qui explique plus le caractère belliqueux des États-nations et des nationalismes que le simple fait de faire référence à une nation.
Ouais. Alors, il faut en venir, et malheureusement, ça sera trop court, à votre définition de la nation. On se souvient peut-être, quelques auditeurs connaissent sans doute la phrase de Renan, le plébiscite quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une part d'un peu d'irrationnel dans la notion de nation. C'est pas simplement une définition politique. Une nation, c'est aussi des sentiments, un attachement, c'est une culture.
Oui, mais qui peuvent se superposer d'ailleurs. Il y a peu d'exemples historiques où il y a un attachement unique. On peut être attaché à sa région, à sa nation, le tout s'emboîtant. Et ça peut aussi, évidemment, dans d'autres cas, devenir conflictuel et poser des problèmes, soit de sécession, soit de plurinationalité. Mais pour moi, l'essentiel sur ce sujet, c'est quand même de dire que la nation politique n'est intéressante que si elle est démocratique. Mais elle est née pour ça historiquement. Quant à la culture nationale, je n'écarte aucune des deux options, mais la culture nationale, rien n'indique qu'elle doit être monoculturelle. Elle peut être monoculturelle dans certains cas, c'est pas illégitime non plus, mais un nationaliste comme Gandhi partait du principe que sa nation serait évidemment pluriculturelle et pluriethnique.
Et dans une nation, Gilles Delannoy, l'individu joue un rôle important. Vous parlez d'ailleurs d'une individualité collective partagée, en parlant de la nation.
Oui, je pense que ce que le thème national a pu apporter au thème républicain, au thème démocratique, c'est l'idée que les droits de l'homme sont les mêmes partout, que en gros la société moderne est la même partout, mais qu'on a une histoire différente et une façon de les interpréter qui est un peu différente. Dans ce sens que les nations sont là pour donner un peu d'individualité à ce qui serait sinon totalement uniforme. Donc ça vaut pour la différence des... Toutes les démocraties ne fonctionnent pas de la même manière, tous les états de droit ne sont pas exactement les mêmes, et toutes les traditions nationales ne sont pas les mêmes. Donc la nation, comme vous disiez, c'est quelque chose d'assez flou, mais en même temps d'immédiatement perceptible. Vous voyez immédiatement que, même si vu d'Europe, il y a des points communs, la Corée, ça n'est pas le Japon. Dès que vous y êtes, au bout de quelques minutes.
Et pas simplement pour des raisons politiques,
oui,
essentiellement pour des raisons de culture.
Voilà.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Je salue aujourd'hui Sakoro Ibrahima qui nous écoute à Bamako. On ne sait plus sur quel pied danser, crie-t-il. Mon pays, le Mali, risque de s'effondrer avec ses crises récurrentes. Bonjour à Hippolyte à Cotonou qui s'interroge lui sur l'avancée turque en Syrie. Bonjour à toute l'équipe, nous écrit Serge depuis Bobo Dioulasso. Un salut aussi à Freddy à Bangui, à Gariadji à N'Djamena. Enfin, bonjour à Jonas à l'université de Lubumbashi en RDC. Nous félicitons sincèrement les Libériens du fait qu'ils ont organisé une bonne élection, écrit-il. Et coup de chapeau au nouveau président, également au candidat malheureux d'avoir accepté sa défaite.
Une semaine d'actualité.
Alors Gilles Delannoy, commençons justement notre voyage africain au Liberia, où l'ex-footballeur George Weah est devenu officiellement président du pays en prêtant serment lundi à Monrovia, dans un stade, c'est logique, Michel Arsenault.
Au stade Samuel Doe de Monrovia, les chorales se sont succédées lors d'une investiture que le président George Weah a lui-même qualifiée d'historique.
J'ai passé des années dans des stades, et ce que j'éprouve aujourd'hui, c'est autre chose.
Je suis renversé par votre fierté et votre énergie. Je vous assure qu'il n'y aura ni gagnant, ni perdant. Aujourd'hui, nous portons tous le maillot du Liberia.
Dans sa prestation de serment, George Weah a placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption. Il a précisé qu'il ferait respecter la règle de droit et insinué que les fonctionnaires seraient augmentés. Le nouveau président a également lancé un appel au secteur privé, répétant que les investissements directs étrangers seraient les bienvenus. Il a précisé cependant qu'il ne permettrait pas la marginalisation des entreprises libériennes, ajoutant que les Libériens devaient devenir les acteurs de leur propre économie.
À savoir aussi cette semaine que 26 Burkinabés maliens ont été tués jeudi près de la localité de Boni dans le centre du Mali lorsque le véhicule dans lequel elle se trouvait a sauté sur une mine. On vous en parle dans nos journaux. Et à propos du Mali, sachez que l'ONU accentue sa pression sur les autorités du pays qu'elle accuse de tarder à mettre en œuvre l'accord de paix. Elle a lancé un véritable ultimatum afin que le gouvernement traduise en acte cet accord signé le 16 janvier dernier à New York mercredi. Marie Bourreau.
Si Bamako échoue à faire appliquer son calendrier décidé le 16 janvier dernier pour la mise en œuvre de l'accord de paix d'ici à la fin mars, les diplomates envisageront des sanctions. François Delattre, représentant français à l'ONU.
Les parties maliennes ont pris des engagements récents importants que nous saluons. Il faut maintenant traduire ces paroles en actes et à défaut, le Conseil devra prendre ses responsabilités, y compris en utilisant l'outil des sanctions tel qu'il est prévu par la résolution 2374.
En septembre dernier, l'ONU s'était dotée d'un cadre général de sanctions. La France assure maintenant être prête à proposer des noms au comité des sanctions qui peut décider d'un gel d'avoir ou d'une interdiction de voyager à tout citoyen malien considéré comme entravant la paix. Après sa première visite à New York, le nouveau ministre malien des Affaires étrangères repart donc à Bamako avec un message de fermeté et une pression accrue du Conseil de sécurité sur son gouvernement.
Direction Bangui maintenant, Gilles Delannoy, capitale d'un pays qui a plus que jamais besoin d'une aide humanitaire d'un montant de plus de 515 millions de dollars pour être précis selon une estimation de l'ONU. Reportage de notre correspondant Edouard Dropsy.
Quartier Fondo, l'un des plus pauvres de Bangui. Plusieurs maisons récentes s'érigent au milieu des ruines. Il y a un an, les déplacés du camp de Mpoko revenaient ici après 3 ans d'absence. Francia est en train de récurer des assiettes qui n'ont accueilli que quelques feuilles et du manioc pour tout repas.
Parce qu'on n'arrive pas à trouver de l'argent, on ne mange presque jamais de viande.
Son beau-frère Armel est à quelques mètres d'elle. Ils sont 11 à vivre dans cette petite maison de terre cuite et ne se nourrissent souvent qu'une fois par jour.
Je gagne 1500 francs CFA et parfois il y a des jours où l'on ne mange pas. On trouve juste de quoi boire un peu de café le soir.
Café de 25 signes par jour.
Lorsqu'il a du travail, Armel façonne des briques pour gagner sa vie et fait pousser quelques plantes dans son carré de jardin.
Hormis certaines ONG qui viennent reconstruire des maisons ici, on n'a jamais vu le PAM ou qui que ce soit qui vient nous distribuer à manger.
Aux yeux de la communauté internationale, Armel et sa famille ne font pas partie des 700 000 centrafricains qui ont un besoin urgent d'aide alimentaire. Mais ils continuent toujours de se demander comment se nourrir demain.
À souligner aussi dans l'actualité africaine, la répression de marches de protestation contre le régime en République démocratique du Congo. Dimanche dernier, 6 manifestants ont été tués lors de marches organisées par un collectif proche de l'Église catholique.
Une semaine d'actualité.
Et nous continuons notre émission avec notre invité Gilles Delannoy, auteur d'un essai que je vous recommande, qui s'intitule « La nation contre le nationalisme », livre publié au PUF, aux Presses universitaires de France. Voilà un sujet qui intéresse beaucoup nos auditeurs, Gilles Delannoy, la notion de nation dans un continent, l'Afrique, qui a eu du mal et qui a toujours du mal à faire subsister, à créer, à faire vivre cette notion de nation.
Oui, l'Afrique est le continent qui était le moins préparé à la construction nationale, le nation building, comme disent les anglophones. Les colonisations des autres continents ont été des colonisations d'États ou d'empires ou de préexistants. Il y a en gros 4 grands modes d'organisation politique depuis que l'humanité vit dans des sociétés complexes. Il y a l'empire, il y a la cité, mais la cité elle est petite et elle a pas de moyen d'assurer son indépendance par elle-même. Et puis, avant la nation, il y a la tribu. Donc il est évident que la situation de l'Afrique avant la colonisation, c'est une situation soit purement tribale, soit de monarchie fédérant des tribus. Remarque que c'est encore le cas d'un pays riche comme l'Arabie Saoudite, qui n'est pas en Afrique, mais c'est un État à fonctionnement tribal, oui. Hein, ou clanique. Donc évidemment, il est beaucoup plus difficile d'opposer au moment de la décolonisation le retour au passé national ou pré-national, comme on peut le faire en Chine ou en Turquie ou en Inde, dans le contexte africain. Et les nations ont quelque chose d'artificiel. Et c'est très difficile de trouver le bon critère qui consisterait... Alors, soit on hérite des frontières de la colonisation, mais qui sont largement arbitraires, aberrantes, voire intenables. Soit on en crée d'autres, mais alors sur quelle base? Sur une base ethnique? Sur une base tribale? Sur une base linguistique? Il me semble que c'est plutôt la base linguistique qui l'emporte. Mais comme il y a surtout deux ou trois langues issues de la colonisation en Afrique, ça ne fait pas pour autant des différences très claires en termes de construction des nations. Donc l'Afrique est vraiment le continent qui a le plus de difficultés à s'adapter au modèle dominant d'aujourd'hui, qui est la nation. Mais il faut immédiatement ajouter que l'Empire ne serait pas mieux.
Oui, oui. Alors Gilles Delannoy, vous parlez dans une partie de votre analyse qui est consacrée au nationalisme et à la réconciliation. Vous citez en exemple, presque, enfin, en tout cas comme sujet d'analyse, ce qu'a fait Nelson Mandela en Afrique du Sud avec cette réconciliation, comme Gandhi d'ailleurs.
Oui, on parlait tout à l'heure de la dimension atroce de certains nationalismes violents, etc., qui est évidente. On pourrait multiplier les exemples, mais on peut faire aussi, évidemment, un usage démocratique et pacifiste du nationaliste, enfin pacifique, sinon pacifiste. Gandhi en est un exemple, Mandela un autre, c'est-à-dire se servir aussi bien en sens culturel et avant tout politique du concept ou du projet plutôt national pour essayer d'unifier ou de pacifier des situations qui sinon risqueraient de mener à des formes de guerre civile. Donc je crois en effet que pour bien prendre la mesure et avoir une approche qui soit pas trop provinciale, repliée ou purement franco-française des inconvénients et des avantages du nationalisme, il faut aussi inclure des expériences comme celle de Mandela, de Gandhi. Il y a un bon usage, il y a un mauvais usage, pour le dire autrement, il y a un mauvais usage et un bon usage de la nation aujourd'hui. Ah, c'est ça la perspective réaliste, au fond, que je veux défendre. Ça vaut aussi bien pour l'Union européenne qu'en effet, dans la fin de l'apartheid. C'est deux problèmes totalement différents, mais dans la fin de l'apartheid en Afrique du Sud.
Alors vous écrivez d'ailleurs, la conduite de Mandela a illustré un thème cher à Ernest Renan, l'oubli des crimes passés afin de vivre ensemble, d'avoir une perspective commune et d'élaborer un projet collectif.
Oui, alors il faut bien préciser que ce que veut dire Renan, ça n'est pas l'oubli au sens de l'histoire, hein. Il faut étudier et connaître son histoire. C'est le fait que ces divisions passées n'ont plus de sens comme conflit, comme ferment de guerre civile aujourd'hui. Oui. C'est ça qu'il veut dire.
Alors, le thème de la nation fait ressurgir aussi un autre thème, et un autre sujet, c'est le thème ou le sujet des frontières, Gilles Delannoy, qui elles aussi sont fort discutées aujourd'hui.
Oui, mais alors là, je serais assez catégorique, je ne pense pas que ça ait particulièrement un rapport avec le... À moins de raisonner dans l'hypothèse d'un État mondial, quel que soit le type d'entité politique de référence, que ce soit un empire, une confédération, une fédération, une nation, une cité, il y a toujours des frontières. Donc pour moi, la question de la frontière est moins une question nationale, c'est plutôt une question de juridiction. C'est-à-dire qui contrôle quoi sur un territoire. On a tendance à ne plus voir exactement cette question parce qu'il y a eu des guerres portant entre États. Ce sont toujours les États qui sont la guerre, ce sont jamais les nations. Hein. Il faut quand même rappeler ça. Même quand un État fait la guerre, il est quand même assez rare que ce soit de gaieté de cœur pour 90% de la population. Donc si on considère que la nation, c'est plutôt la population et l'État, les élites dirigeantes, c'est surtout les élites dirigeantes qui envoient les populations se faire la guerre. Donc du point de vue culturel, je suis pas sûr que les nations soient des ferments de guerre plus qu'autre chose. Alors du point de vue des États, effectivement, on peut mobiliser la propagande nationaliste pour justifier
les guerres. Certains le font allègrement. Voilà. Oui.
Et c'est ça qui est très dangereux. Et là encore, la seule solution qu'on peut voir historiquement, c'est la démocratie. Un exemple très simple, c'est parce que les États-Unis sont une démocratie qu'ils ont perdu la guerre du Vietnam, pour moi. Il n'y avait aucune raison, il peut y avoir des raisons de faire un sacrifice national pour défendre sa liberté si on est conquis, annexé, occupé. Pour les jeunes Américains, il est évident qu'il n'y avait aucune raison d'aller se faire tuer au Vietnam.
C'est parce que la population a manifesté, c'est parce que la presse a fait son travail. On en parle beaucoup avec le film qui vient de sortir, Pentagon Papers.
Bien sûr, et il n'y avait
c'est
rien.
La démocratie à l'œuvre.
Il n'y avait rien de vital pour la démocratie américaine à ce que le Vietnam devienne communiste. C'était peut-être embêtant pour la superpuissance qu'étaient les États-Unis dans le monde de l'époque, mais ça ne se justifiait évidemment pas. Bon, les guerres ne se justifient jamais, ou presque jamais, mais c'est pour vous montrer que la composante démocratique est quand même importante.
Merci Gilles Delannoy. Votre essai s'intitule « La nation contre le nationalisme ». Je le recommande. Il est publié donc au PUF, aux Presses universitaires de France. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Je salue nos visiteurs de Bretagne qui nous ont accompagnés pendant toute cette émission. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées avec Laurent Tess. Nous parlerons de Jean-François Revel qui fut philosophe, essayiste, journaliste à l'occasion de la publication de ses mémoires enrichies de nouveaux textes. Demain dimanche 15h10 temps universel pour vous qui nous écoutez en Afrique et 17h10 heure française pour vous qui nous suivez à Paris et dans le reste du monde. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI. Thank you.